Sons d'Europe, Catherine Roland.
Challenges we face are global, but together in Europe, we can lead the way.
Bonjour à tous, nous sommes maintenant qu'à quelques jours des élections européennes. Les Britanniques ouvrent le bal en votant jeudi prochain. En tête des sondages outre-Manche, le parti du Brexit de Nigel Farage qui veut dynamiter l'Union européenne de l'intérieur, comme le Brexit Party et malgré le scandale en Autriche qui a fait tomber le FPE, extrême droite et populiste ambitionnent une vraie percée pour changer le visage du Parlement européen. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien affiché de l'ex-conseiller de Donald Trump, le sulfureux Steve Bannon, actuellement à Paris.
But send a message to Brussels. I will be spending, you know, 80% of my time in Europe in preparation for the European parliamentary elections with my partners in Belgium.
Bonjour Juliette Rangeval.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, un gros plan sur la Belgique qui va voter dimanche prochain, aussi pour des élections générales. Vous vous y êtes rendue, Juliette, et vous avez notamment rencontré un proche de Steve Bannon. L'Américain met toutes ses forces dans ce combat contre l'Europe, sans que l'on sache très bien s'il est un stratège ou un intrigant. Il a d'abord créé à Bruxelles, il y a 2 ans, The Movement. Et c'est Michael Modricamen, un avocat et homme politique belge, qui en est la cheville ouvrière. À quoi doit servir The Movement, Juliette ?
C'est un club pour promouvoir une vision nationaliste, souverainiste, contre le globalisme, comme dit Michael Modricamen. C'est évidemment Steve Bannon qui concentre tous ses efforts contre l'Europe.
Steve a indiqué que l'Europe était un champ de bataille important pour nos idées. La coalition en Italie entre Salvini et Di Maio, elle a été mise sur pied, entre autres parce que Bannon a vraiment conseillé à Di Maio et à Salvini de tenter l'expérience populiste ensemble, ce qui n'était pas gagné.
Mais l'organisation se heurte à de sérieux obstacles, Catherine. D'abord, il ne peut pas financer de parti dans la plupart des pays européens. Et puis, l'Europe et les États-Unis, ce n'est pas la même chose, reconnaît Michael Modricamen.
Bannon, il a l'expérience aux États-Unis. Il avait mis au point des war rooms, des stratégies, etc. Mais c'est dans une langue. Et c'est en parlant directement à 300 millions de citoyens et au travers de quelques grands médias, Fox News, les grands médias mainstream, CNN et quelques journaux. Si vous voulez le faire, par exemple, au niveau européen, c'est beaucoup plus compliqué. C'est 28 pays. C'est peut-être 30 ou 35 langues.
Résultat, The Movement est assez discret.
Vous attendiez à avoir quelque chose de formel, alors qu'à la limite, le côté informel complètement fluide nous convient parfaitement. Vous attendiez éventuellement à avoir un site internet, une page Facebook, un Twitter, et vous ne verrez rien de ça. Ça a été un choix.
Mais cela n'empêche pas ce club souverainiste et surtout Steve Bannon d'exercer son influence.
Elle est là, l'influence. On est invité à prendre la parole, on le fait autour d'un événement. Et puis tout autour, il y a les contacts. Tout autour, il y a des dizaines d'interviews qui se mettent en place. Et je l'ai dit à Steve par boutade, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Je lui ai dit, quelque part, tu es un peu le Billy Graham du populisme. Alors Billy Graham, c'était un évangéliste qui débarquait. Et alors, ça ne se fait pas dans le cadre de grands rassemblements, de grandes foules nécessairement. Ça se fait en touchant les médias, en touchant quelques élites et en faisant avancer quelque part l'agenda.
Many Europeans think that their vote in the EU elections doesn't count and that the EU is not democratic. How democratic is the EU really?
Alors on l'a dit, Juliette, la cible de The Movement, c'est l'Union européenne et tous ceux qui la représentent, comme les eurodéputés bien évidemment. À quoi servent-ils d'ailleurs? Gagnent-ils trop d'argent? Des questions auxquelles répond Lakshmi Lotha.
Les eurodéputés disposent de plusieurs enveloppes. Un salaire de 8611 euros bruts par mois soumis à imposition. En plus de cette somme, les élus touchent plusieurs indemnités. 313 euros par jour pour leur présence à Bruxelles ou Strasbourg, les jours d'activité officielle. Des frais de voyage pour couvrir leurs déplacements. Une enveloppe mensuelle de 24 526 euros pour pouvoir embaucher jusqu'à 3 assistants parlementaires. Enfin, 4 416 euros par mois appelés indemnités de frais généraux. Cette dernière enveloppe a suscité de nombreux rapports de l'ONG Transparency International, car les eurodéputés n'ont aucune obligation de justifier leurs dépenses pour cette somme. Nicolas Ayossa, de Transparency International.
Il y a des règles qui disent comment cette somme doit être dépensée. Ce n'est pas un complément de salaire. Mais le Parlement n'exige aucun reçu et ne contrôle rien. Ce que l'on constate, donc, c'est qu'environ 40 millions d'euros sont dépensés chaque année par les eurodéputés sans aucun contrôle.
with no financial accountability.
Les eurodéputés ont aussi une image d'absentéiste dans l'hémicycle. Selon le site votewatch.eu, le taux de présence au vote varie de 42% pour les moins motivés des députés à plus de 99%. Il faut savoir que 30% d'entre eux ont une autre activité salariée, avocat conseil par exemple, auto-entrepreneur ou consultant, ce qui peut poser des problèmes de conflit d'intérêts ou de présence. Il n'y a aucune obligation pour les eurodéputés d'assister aux réunions et sessions plénières, mais s'ils sont absents à plus de la moitié des séances, ils ne toucheront que 50% de leurs indemnités de frais généraux.
Alors, peut-on profiter du système, être élu, payer et ne rien faire? Marjorie van den Broek, porte-parole du Parlement européen au micro de Laxmi Lotha.
Le mandat des députés européens est géré par les lois européennes. Donc, on a ces sanctions financières en cas d'absence régulière. Pour les restes, c'est vraiment aux votants de juger, hein, après ces 5 ans.
Un eurodéputé ne participe pas forcément à tous les débats en session plénière. Il doit travailler sur ses dossiers en commission, recevoir les journalistes, discuter, négocier dans son bureau ou même dans les couloirs. Mais dans ces couloirs ou au moment du vote, les eurodéputés ont-ils un pouvoir? On parle de codécision depuis le traité de Maastricht de 1992. La majorité des lois européennes sont adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Depuis 2009, les députés votent le budget européen. Les eurodéputés interrogés estiment tous avoir concrètement agi sur la vie des citoyens européens. Christine Revaud-Dallonès-Bonnefoy du groupe des socialistes, Elisabeth Morin-Chartier du groupe de droite PPE et Michel Rivasi des Verts.
Désormais, parce que le Parlement européen s'est prononcé pour un vrai droit des passagers du train, il y a remboursement de 100% du billet en cas de plus de 2 heures de retard du train.
L'Europe a fait une directive pour qu'on puisse à la fois bénéficier de champs électromagnétiques dans les examens médicaux, mais aussi se protéger des champs électromagnétiques trop violents, trop puissants, qui peuvent détruire votre santé. Et ça a été l'objet de ma directive.
Regardez-moi, vous savez, j'avais créé la CRIRAD au moment de Tchernobyl, ce laboratoire indépendant qui avait dénoncé le mensonge de Tchernobyl. Eh bien, j'ai continué à m'occuper des gens qui vivent dans les zones irradiées de Tchernobyl, parce qu'il y a encore des zones contaminées. Grâce à la Commission européenne, on a rénové un hôpital, on suit 4000 gamins qui ont toujours des problèmes de santé. Voilà tout ce que peut faire un député européen.
Lorsqu'ils doivent prendre des décisions, les eurodéputés sont-ils manipulés par les nombreux lobbyistes de Bruxelles? Depuis février cette année, les eurodéputés qui sont présidents et rapporteurs de projets en commission doivent publier leurs rencontres avec des lobbyistes, mais cela ne concerne pas tous les eurodéputés. Ces dernières années, 3 anciens eurodéputés ont été condamnés à de la prison ferme dans leur pays, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie, pour corruption. Piégés par des journalistes qui s'étaient fait passer pour des lobbyistes, ils avaient accepté 100 000 euros par an pour influencer des votes. Martin Pigeon travaille pour CIO, une ONG qui surveille les pratiques des lobbies. Pour lui, il faut plus de contrôle de ces rencontres entre eurodéputés et lobbyistes.
Il y a un registre pour les gens qui disposent d'un badge d'accès au Parlement. Les lobbyistes peuvent obtenir un badge d'accès annuel pour pouvoir rentrer dans le Parlement quand ils veulent. Donc il y a ça, ça permet de savoir qui dispose de ce badge d'accès-là. Mais bon, on peut tout à fait organiser des rendez-vous avec des eurodéputés dans les innombrables bars devant le Parlement européen aussi. Et ça, ça passe entre les mailles du filet.
Les eurodéputés ont donc du pouvoir. Ils peuvent s'améliorer en matière de transparence en ce qui concerne leurs indemnités, leurs activités parallèles et leurs relations avec les lobbies.
I hate being taken for an idiot.
To 6 yes and no questions, I got not a single answer.
Vos abus de pouvoir, Monsieur le Président, vos abus de pouvoir commencent à lasser tout le monde ici, tout le monde.
Retour dans la campagne électorale des européennes, Juliette, une campagne d'autant plus compliquée que le même jour, les Belges vont devoir s'exprimer pour des élections générales, sans oublier qu'on vote dans 3 collèges linguistiques, francophones, néerlandophones, germanophones. Les 22 listes et 159 candidats pour le Parlement européen paraissent bien petits, donc face aux 366 listes et 7000 candidats en lice pour l'ensemble des scrutins. Même si on est dans le pays qui accueille les institutions européennes, même si les Belges sont europhiles, les enjeux des européennes ne sont pas au cœur des préoccupations, comme partout en Europe. Les candidats que vous avez suivis, hein, Juliette, doivent mettre les bouchées doubles.
Et la journée marathon de Philippe Lamberts commence dans un quartier populaire de Bruxelles, Anderlecht. à la tête du groupe vert du Parlement européen, l'élu écolo et candidat à un troisième mandat. Dans les locaux d'ID53, on offre des formations professionnelles à des adultes. En cuisine, les derniers cafés ont été servis. On commence à préparer le déjeuner. À quelques mètres de là, Philippe Lamberts se livre au jeu des questions-réponses. Et il faut convaincre ce public, pas diplômé, souvent en grande difficulté, de l'importance cruciale de l'Europe.
Quand vous regardez la législation environnementale, si ça n'avait tenu qu'à la Belgique, on n'aurait pas fait le tiers du quart de la moitié de ce qu'on a fait. Autrement dit, c'est parce qu'il y a eu l'impulsion européenne qu'on a assaini l'eau en Belgique, qu'on a eu des zones Natura 2000, qu'on a quand même accepté 13% de réduction de CO2, et c'était encore beaucoup trop, ma bonne dame. Alors est-ce que l'Europe va assez vite et assez loin et dans la bonne direction? Pas toujours. Mais on a le levier là. Et la meilleure preuve, c'est que Bruxelles est une des deux capitales mondiales du lobbying. Et ça, c'est une formidable nouvelle. Parce que ça veut dire que Bruxelles est un de ces lieux mondiaux où le pouvoir est concentré. Nous avons le pouvoir à Bruxelles. Il n'y a aucune multinationale qui est prête à faire l'impasse sur le marché européen. Ils sont terrorisés par ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'ils nous lobbient. Si on ne pouvait pas les emmerder, vous pensez bien qu'ils ne dépenseraient pas des centaines de millions par an à nous influencer. Hein.
Toute la journée, il va marteler ce message. Et qu'il faut aller voter. En Belgique, le vote est obligatoire, mais même comme ça, un électeur sur 10 ne se déplace pas.
Le problème, c'est que beaucoup de nos concitoyens continuent à penser que on a voté à droite, on a eu des politiques de droite. On a voté à gauche, on a eu des politiques de droite. Si on vote écolo, on aura des politiques de droite. Donc pourquoi aller voter? Alors c'est soit le vote bras d'honneur, soit c'est le vote je reste à la maison ou je vais à la pêche, quoi. Mais donc, je pense que c'est notre travail de pédagogue de montrer qu'il y a des enjeux et que non, tous les élus ne votent pas de la même façon, qu'on aurait pu obtenir des choses sur les perturbateurs endocriniens, qu'on aurait pu avoir des objectifs climat plus ambitieux que ce qu'on a obtenu et que, bon, ben pour ça, il faut les majorités adéquates. Autrement dit, voter fait une différence.
Marie-France a pu profiter de la venue du candidat pour l'interpeller. Elle qui peine pour joindre les deux bouts, elle apprécie qu'il ait fait le déplacement, elle ira voter.
Le fait qu'il se déplace, le fait qu'il vienne, qu'il nous entende et qu'il puisse venir nous expliquer ces choses-là, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce ne sont pas simplement les personnes qui sont sans rien faire, qui sont entendues en fait du coup. Sans rien faire, c'est-à-dire ceux qui vont dans les rues, qui vont manifester, qui ont du temps. On n'a pas le temps parce que si nous on manifeste, on est mis comme absent. Si on est mis comme absent, nous on peut être viré de la formation. Et ça on ne veut pas du coup. Nous on veut trouver un boulot, on veut bosser quoi.
Dans un kilomètre, restez à droite.
Une heure après, Philippe Lamberts reprend la route. Une cérémonie à Bruxelles, puis retour au Parlement pour discuter Brexit avec la presse britannique. Puis voiture, de nouveau, direction l'université de Louvain-la-Neuve. Devant les étudiants en journalisme à présent, la salle est moins remplie que le matin, mais la tension est là et le jeu de l'interview peut commencer. Pour convaincre, le punching ball préféré de Philippe Lamberts, c'est le président français, Emmanuel Macron, égratigné le matin devant les adultes en réinsertion d'ID53 et l'après-midi devant les étudiants.
Emmanuel Macron, c'est le joueur de flûte de Hamelin. C'est celui qui, en voulant vous faire croire qu'il est le défenseur du bien, en fait, vous mène encore plus vite à l'effondrement. Et quelque part aussi, il est intéressant parce qu'il est la caricature de l'Europe néolibérale. Il ne se rend même pas compte qu'il choque. Mais de savoir qu'un Danny Cohn-Bendit, qui est mon prédécesseur à la tête du groupe des Verts au Parlement européen, a réellement et continue de nourrir l'ambition d'arrimer la famille verte à un gars qui incarne la mondialisation néolibérale, ben, il faut clairement montrer non, c'est pas la même chose, lui et nous.
Et puis il essaie de répondre à ceux qui reprochent à l'Europe d'être trop éloignée des réalités.
Interdire le plastique à usage unique. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de plus concret que ça. Réduire les émissions de CO2 des véhicules et pour la première fois maintenant imposer des normes d'émissions de CO2 aux camions, je trouve que c'est assez concret. On ne mange pas du perturbateur endocrinien, je veux dire, vous n'achetez pas un pot de perturbateur endocrinien pour le souper. Mais par contre, vous en trouvez dans quantité de produits de consommation. Alors ça, c'est moins visible, mais ça a un impact. C'est sûr qu'on ne mange pas du glyphosate non plus, on n'en boit pas, mais on en respire les particules fines, etc. Et donc, oui, je dis souvent, notre rôle de député, d'élu, c'est d'être des pédagogues de la transformation. Ou du statu quo, si vous préférez le statu quo. Mais c'est des pédagogues. Et ça, vous n'êtes pas pédagogue en restant dans votre bureau. Vous êtes pédagogue sur le terrain.
Assis sur un banc, Philippe Lamberts attend la voiture qui va l'emmener maintenant à l'université de Liège, à une petite centaine de kilomètres de là, pour un dernier débat avec les têtes de liste francophones des élections. La soirée commence à peine. Les étudiants de Louvain-la-Neuve vont rejoindre la fête du campus organisée ce jour-là. Pas forcément très convaincu par la prestation du candidat.
Bah, comme l'a dit M. Lambers, il y a encore des restes de petits roquets, comme on dit. C'est-à-dire, il mord beaucoup, il attaque beaucoup. Et bon, bah, personnellement, c'est mon avis personnel, je suis d'accord avec pas mal de choses aussi. Du coup, le discours m'a plu. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne pense pas forcément comme lui et qui a l'esprit critique, c'est vrai que c'était un petit peu de la charge personnelle contre Emmanuel Macron, bien sûr. Et puis, M. Lambert s'est beaucoup plus versé dans la politique européenne maintenant que dans la politique belge.
L'Europe est beaucoup trop lointaine, beaucoup trop sur des questions qui touchent pas assez les citoyens. Et donc, l'Union européenne, pour l'instant, pour moi, c'est pas possible d'aller aux gens. Quoi.
Pas possible d'aller aux urnes. Les écolos, cependant, pourraient faire un bon score et obtenir 2 sièges dans le prochain Parlement, un de mieux que dans la précédente mandature.
Une journée marathon exclusivement européenne pour Philippe Lambers.
De NVA rate for meer jobs, meer loon.
Alors côté flamand, le parti que vous avez suivi a adopté une toute autre stratégie.
La NVA, la nouvelle alliance flamande, est en tête dans les intentions de vote côté néerlandophone et elle tient meeting pour les élections européennes, régionales et fédérales en même temps. La NVA, c'est un parti nationaliste, Catherine, franchement à droite de l'échiquier politique. Il a participé au gouvernement fédéral jusqu'en décembre dernier et il a décidé de quitter la majorité pour ne pas être associé à un gouvernement qui valide le pacte mondial sur les migrations, le fameux pacte de Marrakech.
Il y a un gouvernement extrémiste dessus. Islam extrémiste, musulman extrémiste, terroriste.
Alors ce soir-là, le meeting se tient à Heeps op den Berg, une commune de 42 000 habitants dans la province d'Anvers, en présence de l'ancien ministre de l'immigration, Théo Franken.
La salle est pavoisée en jaune et noir. On est venu en famille pour l'écouter disserter devant un diaporama où défilent des images d'églises détruites, d'exécutions par les terroristes de Daesh et de migrants allongés sous des couvertures à la gare de Bruxelles. La NVA radicale, raciste, c'est ce qu'affirment ses détracteurs. Pas de quoi effrayer pourtant. Assita Kanko, elle est née au Burkina Faso. Elle est la numéro 2 sur la liste du parti aux européennes.
Imaginez que quelqu'un, parce qu'il est noir, doit avoir certaines opinions. C'est raciste et c'est très conservateur.
Assita Kanko, qui tient beaucoup à sa liberté de penser, a prise, dit-elle, en lisant Simone de Beauvoir et en écoutant RFI. Après s'être installée en Belgique, cette ancienne conseillère municipale sous l'étiquette MR, un autre parti de la droite belge, a pris ses distances avec la politique avant d'adhérer à la NVA. Beaucoup ont vu de l'opportunisme dans son ralliement. Elle s'en défend.
Je suis très crédible sur les dossiers que je défends. Je ne suis pas du tout dans la politique pour m'alimenter parce que je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, je suis moi-même indépendante. Mes clients, c'est des grandes entreprises. Et donc, d'ailleurs, quand on est député, on risque même de gagner moins que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé. Et donc, j'ai choisi ça par engagement. Le 14 octobre, j'ai voté pour la NVA parce que j'étais convaincue par l'idée qu'ils ont d'avoir des solutions, d'avoir des débats où il n'y a pas de tabou et de parler ouvertement des problèmes afin de pouvoir les résoudre.
Une grande partie du public découvre ce soir-là Assita Kanko et estime qu'une candidate comme elle, c'est bon pour l'image du parti.
On entend toujours radical, raciste, etc. Et c'est pas comme ça. Moi, j'ai des collègues qui sont marocains, indiens, etc. Et si j'étais raciste, je ne travaillais pas avec eux. Donc, pour moi, c'est pas correct ce qu'on dit de l'NVA.
C'est peut-être bon pour la NVA, mais ne craint-elle pas de s'afficher aux côtés d'une personnalité sulfureuse comme Théo Franken ?
C'est plutôt Théo Franken qui s'affiche à côté de moi. C'est peut-être possible parce que je suis numéro 2 quand même pour l'Europe et je suis parmi les têtes d'affiche du parti.
Sur l'écran dans la salle ou sur les affiches du meeting, pourtant Assita Kanko n'apparaît nulle part. Seul le ministre et les candidats aux élections fédérales et aux régionales ont droit à leur portrait.
Merci Juliette Rangeval, on vous retrouve dès jeudi. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Parlement européen. Retrouvez sur notre site nos vidéos, l'Europe en vrai, 6 idées reçues décryptées. À ne pas manquer également le grand reportage Macron-Le Pen, la bataille pour l'Europe, dès demain avec Anthony Latier et Anne Souhaitemont. Françoise Grelot était bien sûr à la réalisation.